Journal de Rhizome. Calendrier organique, an 6. Archives papier conservées à la bibliothèque du Couvadis. J'ai longuement réfléchi. Et j'ai relu mes classiques. Si on veut fonder une communauté où les inégalités soient presque inexistantes, comment s'y prendre? L'hypothèse de Rousseau m'a longtemps intéressée. Supprimer la propriété privée, ce serait faire prendre une autre direction à la civilisation. Et pourquoi pas supprimer l'argent? Mais j'ai peur que cela ne fonctionne pas. Les animaux sont eux-mêmes très souvent territoriaux, ce qui veut dire qu'ils revendiquent en quelque sorte la possession, l'usufruit d'un territoire. Si ce n'est au niveau individuel, du moins au niveau d'une meute, d'une tribu. À quoi servirait de lisser les inégalités entre individus s'il demeurait des inégalités entre tribus, entre communautés? Non. J'en suis venue à considérer que la meilleure façon de faire serait de supprimer l'héritage. C'est l'héritage qui a poussé les inégalités à leur extrémité. Qu'un bébé naisse propriétaire ou futur propriétaire quand d'autres naissent esclaves. Qu'on ait quelque autre droit à la naissance que le droit à la santé, à l'éducation et à la liberté, cela n'est pas normal. À chaque génération, tout doit être remis à plat. Tous les biens accumulés pendant une existence doivent revenir à la communauté et partager à nouveau. Cela ne ferait souffrir personne. Cela éviterait seulement qu'on cherche à accumuler des profits dont une vie ne suffirait pas à jouir. Et qu'on crée, dès la naissance, des castes de dirigeants et des castes de dirigés. Chapitre 16. Interpellation. Calendrier organique, an 589. Année terrestre, 3416. Le lieutenant Malkin ne décolérait pas. Il avait failli déchirer le papier, puis l'avait enfoui dans la poche de son uniforme. Michael n'osait pas lui adresser la parole pour lui demander où il se rendait. Malkin faisait de toute façon comme s'il n'existait pas. Il avait finalement ordonné à Fabre et à Wilson de diriger le véhicule vers le village où se cachait Touré. Michael, un peu secoué par la conduite sportive de Fabre, avait regardé le paysage défiler sans poser la question qui lui brûlait les lèvres. Allait-il vraiment se battre, à quatre, contre un clan tout entier? Michael, à l'arrière du véhicule, n'osait pas non plus sortir le transmetteur, de peur de se le faire confisquer ou de se faire accuser de traîtrise. Il était déjà bien assez suspect que les autochtones aient demandé sa démission de l'Union et son transfert définitif sur l'organe. « Mais qu'avez-vous dans le crâne, Strauss ?» lui avait lancé cinglant le lieutenant Malkin. « Vous n'avez pas compris que tous ceux qui resteront avec les autochtones partageront leur destin ?» Michael n'avait pas répondu. « Je ne veux pas que vous sortiez du véhicule quand nous serons là-bas, Strauss. Je ne veux plus que vous ayez aucun contact avec ces foutus autochtones. » Outre la colère de Malkin et le stress qu'il répandait tout autour de lui dans le véhicule, outre l'inquiétude à l'idée qu'on allait utiliser la force pour ramener Touré à bord et que ce serait très probablement dans le but de la pendre, Michael devait aussi gérer sa propre incompréhension de la situation. Son manque de clairvoyance et de discernement, quelque chose lui avait totalement échappé chez les autochtones, quelque chose qui leur permettait, alors qu'ils n'étaient pas fous, de se comporter comme s'ils l'étaient. Au bout de quelques minutes, le trajet, par sa silencieuse monotonie, calma un peu ses nerfs. Foudre était très intelligente, il en avait eu de multiples preuves, et c'était aussi le cas des autres clés, il en était certain. Ils avaient la culture nécessaire pour comprendre les enjeux que Michael avait décrits. Ils avaient forcément compris le message. Alors pourquoi agissaient-ils comme s'ils ne craignaient rien? Comme s'ils n'étaient pas en danger? Cela restait un mystère. Michael avait peur d'en deviner la raison. Peut-être étaient-ils tout simplement si solidaires et si respectueux de la vie qu'ils n'imaginaient pas réellement qu'Egon Richards serait capable de les tuer pour arriver à ses fins. Il pensait que c'était un coup de bluff, peut-être. Mais de quelle disposition parlait-il? Essayait-il, eux aussi, de bluffer? disposaient-ils d'une arme dissuasive? Peut-être un canon du Quo Vadis qu'ils auraient réussi à faire fonctionner d'une manière ou d'une autre? De quelle puissance inconnue disposaient-ils pour pouvoir se sentir ainsi en sécurité? Orage, avec la prudence qui caractérisait l'ensemble de ses décisions, ne s'était pas rendu au Conseil des Clés. Il avait expliqué la situation à Brume, qui avait été sa voix auprès des autres clés. L'homme de la sonde allait revenir, et revenir en force, avec des armes dans les mains et des menaces plein la bouche, et il allait exiger qu'on lui livrât la réfugiée, qui faisait maintenant pleinement partie de son clan, sous le beau nom de Forêt. Pendant les dernières semaines, j'avais la sensation de ne plus être moi-même, et d'être la Forêt, avait-elle expliqué. Ce nom lui avait donc été attribué à l'unanimité. Forêt était d'une nature joyeuse et courageuse. Sa soif d'apprendre et de s'intégrer avait aplani toutes les difficultés, vaincu toutes les réticences de certains membres du clan. Son symbole était gravé juste au-dessous du cœur du vieil homme, et il songeait que c'était une bonne place. Elle avait en effet gagné le chemin de son cœur, et il devinait que son sourire illuminerait ses vieux jours et qu'elle serait l'un des derniers visages qu'il voudrait voir avant de s'éteindre quand le temps viendrait. Il n'avait donc pas hésité une seule seconde lorsque l'homme de la sonde était venu la réclamer. « Pour la juger, avait-il dit, pour la punir, parce qu'elle avait déserté. » Orage s'était montré très diplomate et lui avait expliqué avec beaucoup de courtoisie que les usages en vigueur sur l'organe nécessitaient d'abord l'accord du Conseil des Clés. Il avait offert aux trois personnes du vin de prune et des beignets auxquels l'homme de la sonde avait à peine touché. Il n'avait pas été dupe de cet atermoiement volontaire. Il ne pouvait décemment y réagir comme si c'était une fin de non-recevoir, mais il savait que cette procrastination était une insolence, un refus et une diversion. Il avait pressé les deux jeunes gens qui l'accompagnaient et s'était retiré avec un mot d'une politesse glacée. Orage avait regardé le véhicule disparaître au-dessus de la rivière et était resté longuement à méditer après que le bruit du moteur eût cédé la place au clapotis des eaux. Aujourd'hui, il avait réuni tout le clan de l'Orage sur la grande place et, dès qu'ils reconnurent au loin le bourdonnement mécanique du moteur, ils amorcèrent le rituel ancestral. « Je te prêterai la force de mon esprit lorsque tu en auras besoin », chantèrent à l'unisson tous les membres du clan. « L'équilibre du clan sera ma seule boussole », répondit la voix éraillée et solitaire du vieil homme. « Je serai ton corps, tes mains, ton bras, tes jambes. Je serai ton courage et ton secours. » Les paroles de la cérémonie du lien furent répétées plusieurs fois, et petit à petit ils sentirent tous qu'une sorte de pont s'ouvrait entre leurs esprits et leurs corps, la plupart du temps séparés. Le vieil Orage, qui avait depuis plusieurs années le maintien un peu voûté d'un vieillard, se redressa, dans un impressionnant regain de jeunesse et de puissance, comme s'il puisait dans toutes les forces vives qui lui étaient offertes. Il était traversé d'une énergie nouvelle, plus impétueuse qu'un torrent. Alors, Orage se mit à accomplir les mouvements de la danse rituelle, et à chaque fois qu'il mobilisait son propre corps, il mobilisait en même temps le corps de tous les autres. Il se mit à danser, avec des mouvements lents, et admira la parfaite unisson, la synchronisation absolue de son clan, qui exécutait sans réfléchir les mouvements dictés par son cerveau. La jeune Forêt, dont c'était la première expérience du rituel, avait un sourire émerveillé sur le visage tandis qu'elle regardait la danse de l'Orage. Cela ne réclamait aucun effort de sa part. Il lui semblait qu'elle était guidée par une force intérieure et cette facilité lui procurait une profonde satisfaction. Elle ne se sentait pas pour autant incapable de réfléchir. Une part de sa conscience restait éveillée et individuelle, mais quelque chose de collectif avait pris possession de son corps, comme dans les gestes de l'amour. De toutes les expériences qu'elle avait déjà vécues, c'était à un rapport sexuel que cela ressemblait le plus, par cette synchronisation inconsciente, cette participation à un mouvement partagé, cette fusion avec l'autre. Lorsque le véhicule s'approcha, la danse de l'Orage ne cessa pas. Et lorsque le lieutenant Malkin, flanqué de Fabre et de Wilson, descendit du véhicule et pénétra dans le village, elle ne cessa pas non plus. Michel, ou plutôt Forêt, ressentit un trouble en voyant son visage dur, mais ce trouble fut apaisé presque aussitôt, par un afflux de force qui lui venait du groupe. Elle parvint à sourire et se sentit invincible. Bientôt, Orage cessa tout mouvement et se tourna vers les intrus. Comme un seul homme, tous les membres du clan s'immobilisèrent et se tournèrent vers eux également. « Je viens chercher l'enseigne Michel Touré que je vois ici, » déclara Malkin d'une voix forte. « Pour votre propre sécurité, n'opposez pas de résistance. Touré, vous ne souhaitez pas être responsable d'un massacre chez ces gens qui vous ont accueillis. Il vous reste suffisamment de dignité pour nous suivre volontairement. » Orage ne prit pas la peine de parler. Il avança vers les hommes de la sonde et tout le groupe avança avec lui, comme une marée humaine. Le lieutenant Malkin dégaina son arme, tandis que Solveig Fabre restait stupéfaite et comme terrorisée. Gus Wilson, avec un temps de retard, dégaina également son arme. Orage poussa son avantage en se mettant à psalmodier, ce qui, repris par les centaines de voix, fit un effet saisissant. Cela suffit à mettre la jeune femme momentanément hors d'état de nuire et à faire perdre un temps précieux au jeune homme. Seul le chef paraissait difficile à impressionner. Orage allait devoir aller plus loin. Avec une vigueur surprenante, il se rua sur les étrangers et, assailli par le clan tout entier qui se déplaçait ensemble à vitesse constante et sans la moindre hésitation, Malkin tira. Galvanisé par la peur et par l'odeur de la poudre, Gus Wilson tira également. Les deux coups de feu déchirèrent le silence sacré de l'organe, plus encore que le bruit des moteurs ne l'avait fait. Et Orage, par la déflagration d'une douleur extrême dans son rein et dans sa main gauche, éprouva un sentiment soudain de rage à l'encontre de ces tueurs sacrilèges. Sa rage lui fit perdre la conscience claire des limites de son propre corps. Il désirait que des mains arrachent les armes à feu et les jettent à la rivière, et c'est ce qui fut fait. Il désira que le véhicule soit mis en pièces et démantelé, et c'est ce qui fut fait. Il y avait un homme de plus dans le véhicule qui n'opposa pas de résistance et qui fut violemment poussé avec les autres. Il désira que les hommes de la sonde soient chassés, qu'il pleuve sur eux une pluie de branches et de pierres, et c'est ce qui fut fait. Quand enfin le calme fut revenu sur les berges de la rivière, Orage coupa le lien. Michel eut l'impression de s'éveiller d'un rêve ou d'une transe, ou peut-être d'un sommeil alcoolique. Elle avait un peu la gueule de bois, mais sa conscience était claire. Elle vit distinctement Orage, qui l'instant d'avant s'avançait avec une majestueuse puissance, s'effondrer, pantelant et presque sénile, les deux mains pressées contre son flanc. Elle vit, avec une horreur coupable, le sang rouge qui coulait des blessures de deux personnes. Elle se précipita et reconnut dans un cri de désespoir le corps jeune et frêle de Brise, troué au ventre, morte. Et à quelques mètres d'elle, un homme qui se tordait de douleur avec une balle dans l'épaule. Elle se mit à pleurer de honte. Les propos du lieutenant Malkin lui revenaient avec une insupportable acuité. « Touré, vous ne souhaitez pas être responsable d'un massacre chez ces gens qui vous ont accueillis. » Tandis qu'elle étreignait avec fureur le corps inerte de Brise, elle murmurait sans cesse « Pardonne-moi, ce devait être moi. » C'était Gus Wilson qui frayait le passage, et les autres suivaient. Il devait exister un sentier dans cette direction, mais il ne le trouvait pas, ralenti de manière humiliante par les difficultés stupides de la marche en forêt. Les accidents du terrain, les ronces, les fourrés, cette maudite planète paraissait les contrarier exprès par toutes les ramifications de sa flore. Le lieutenant Malkin n'avait jamais éprouvé à la fois une telle rage et une telle impuissance, et seule la perspective des représailles lui permettait de ne pas exploser. Strauss avait le bon goût, ou plutôt la prudence, de se taire. La moindre remarque de sa part aurait inévitablement débouché sur un échange de coups. Fabre suivait la direction avec le GPS, juste derrière Wilson. Au début, Malkin les suivait, et Strauss fermait la marche. Puis Malkin s'était avisé que Strauss pourrait très bien déserter lui aussi, et il l'avait fait passer devant lui. À défaut de Touré, il pourrait obtenir des sanctions à l'encontre de Strauss. Pas la pendaison, certes, mais au moins 15 jours de mitard. Cette pensée versait un baume très léger sur la brûlure à vif de son amour-propre. Il songeait aussi au plaisir qu'il aurait à bombarder cette ville et à décimer ses habitants. Il ne nourrissait aucun scrupule à cet égard. les faibles devaient payer le prix de leur folie lorsqu'ils s'en prenaient au fort. Les petits chasseurs ne faisaient pas feu sur les grands vaisseaux de guerre, où ils finissaient pulvérisés. Un enfant était capable de le comprendre. Ce n'était donc pas le scrupule qui l'arrêtait, mais l'exaspération de ne pas avoir été suffisamment fort tout de suite. Il s'était fait désarmer et chasser de ce village primitif, à coups de branches, à mains nues. C'était cela que les faibles allaient payer. La perte de contrôle momentanée, le vacillement du colosse, son effarement devant ce qu'il considérait de toute éternité comme impossible. On ne pouvait pas traiter avec ces gens-là, pas plus qu'avec des animaux. Ils venaient de se situer, pour Malkin, en dehors de la rationalité humaine. Michael, quant à lui, indifférent aux lacérations répétées des branches, aux douleurs de ses pieds et à la haine presque palpable de son chef derrière son dos, essayait de réfléchir calmement. Ils allaient finir par retrouver la navette, c'était certain, et ils remonteraient à bord de la sonde. Le lieutenant Malkin avait été si humilié par son échec qu'il pousserait le capitaine à attaquer tout de suite. Mais Richards était un homme réfléchi et pondéré. Il ne prendrait aucune décision dans l'urgence et aurait à cœur d'entendre tout le monde, lui compris. C'était là sans doute sa seule chance d'éviter la tuerie. Il fallait qu'il plaide la cause de l'organe auprès de cet homme qui, pour borné qu'il pût se montrer, n'était cependant pas cruel et pas dénué non plus d'une certaine forme d'humanisme. Jamais il n'avait eu à prononcer un discours aussi chargé d'enjeux. Michael se sentait soudain l'avocat d'un peuple tout entier qui risquait la peine de mort. Il essaya de ne pas penser à cet enjeu qui le dépassait, mais de se concentrer sur les arguments qui pourraient porter auprès de Richards. L'inutilité de la tuerie. On pouvait prendre le contrôle de la ville sans effusion de sang, massive. L'avantage de la négociation. Il fallait au moins envisager d'accepter les conditions des autochtones. Il refusait de donner le quo vadis. C'était certes un manque à gagner pour l'Union, mais il restait une planète presque entière à exploiter, et des ressources naturelles, à foison. Ne valait-il pas mieux respecter la vie de cette colonie humaine? La coopération de cette communauté, les savoir-faire psychiques et sociaux dont elle faisait preuve seraient peut-être des butins plus profitables que des matières premières vieilles de 5 siècles. Son cerveau s'était saisi de cette argumentation, et comme cela lui arrivait parfois, Michael le laissa moudre son grain. Son cerveau, parfois, fonctionnait presque comme une machine, résolvait un problème long, en fond de tâche, et libérait sa conscience immédiate, aussi bien pour les tâches quotidiennes que pour les conversations d'usage, et même des questions de moindre importance. De moindre importance, vraiment? Foudre? Ce n'était pas seulement tous les habitants de l'organe qui risquaient de périr, c'était elle, en particulier, et cela était encore plus insupportable. Une idée lui vint alors. Le transmetteur. Il pouvait laisser le transmetteur, comme une bouteille à la mer, sur le sol de la planète, avant de quitter l'organe. Il pouvait espérer qu'elle le retrouverait, ou que quelqu'un le retrouverait et le remettrait à une clé. Avec un peu de chance, ce détail, que seul Richards connaissait d'ailleurs, serait oublié dans la foule des urgences à régler. Le capitaine se soucierait-il de ce petit instrument, mis en place pour distraire Reda de ses pulsions suicidaires, lorsqu'il s'agirait de décider d'actes de guerre? Grâce au transmetteur, il pourrait prévenir les autochtones et leur permettre de fuir l'épicentre des bombardements. Il sauverait peut-être des vies, peut-être celles de Foudre. Lorsqu'ils arrivèrent à la clairière où les attendait toujours l'annexe, la nuit était en train de tomber. Le ciel, dérobé à leur vue depuis des heures par la cime des arbres, leur apparut dans toute sa splendeur crépusculaire, striée de pourpre et de mauve sur un fond d'azur pâlissant. Les étoiles faisaient une traînée de poussière d'or. Des nuages flottaient dans cette lumière comme de fantastiques vaisseaux. Il y avait dans l'air une fraîcheur délicieuse. La beauté de cette soirée fit presque mal à Michael. Il quittait l'organe, sans aucun espoir d'y remettre les pieds, et cette pensée rendait sa marche jusqu'à l'annexe presque insoutenable. Il n'était pas le seul, d'ailleurs, à renâcler dans la dernière ligne droite. Ils étaient tous épuisés. Et par un mécanisme trop humain, la vue de leur ligne d'arrivée leur avait coupé les jambes. Tous, même Malkin, avaient du mal à franchir les derniers mètres, qui semblaient paradoxalement les plus difficiles après les efforts intenses qu'ils avaient tous fournis. Le lieutenant Malkin ne s'étonna donc pas que Strauss trébuche à quelques mètres de l'annexe et tombe. Il éprouva un peu de mépris pour cette incapacité à soutenir son effort jusqu'au bout, mais cette incapacité correspondait absolument à ce qu'il pensait du personnage. Les intellectuels en général, et les spécialistes de sciences humaines en particulier, lui avaient toujours inspiré un profond mépris, et cette absence de dignité ne faisait que confirmer ce qu'il croyait déjà savoir à leur sujet. Michael jeta le transmetteur dans l'ombre, à quelques mètres, lorsqu'il se laissa tomber volontairement. Puis il se releva tant bien que mal, avec une vraie difficulté, et se hissa jusque dans l'annexe. Il était étrange de ressentir un tel soulagement physique, en même temps qu'une telle détresse morale. Il colla son visage à la vitre et s'efforça de ne pas regarder dans la direction du transmetteur, afin qu'aucun des trois autres n'ait l'idée de regarder dans la même direction. L'organe était en train de plonger dans l'obscurité, et les lumières brutales de l'annexe achevaient de le rendre invisible. Quand le moteur de l'annexe se fit entendre et que l'accélération décrocha brusquement son cœur de sa poitrine, Michael se rendit compte qu'il pleurait.